Bonjour à toutes et à tous. Et nous vous souhaitons la bienvenue pour notre moment de célébration. Alors, comme vous le voyez, nous sommes en direct dans les locaux de l'église de l'Épi. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous nous rassembler, mais nous avons l'autorisation d'être une petite équipe de 10 personnes pour organiser justement ce temps de culte. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous avons eu quelques bonnes nouvelles de votre part et nous nous en réjouissons vraiment. Et nous souhaitons que vous allez encore bien. Alors, avant de commencer ces instants, si vous voulez bien, nous allons prier. Seigneur, vraiment, je te remercie pour toutes les grâces que tu vas nous accorder encore aujourd'hui. Seigneur, ce matin, nous voulons encore venir te louer, t'adorer, te dire combien nous sommes reconnaissants de ton amour, de ta patience, de ta paix et de ta joie. Merci Père, prends toute la place ce matin dans nos cœurs et que nous puissions t'apporter vraiment cette louange qui t'est due. Amen. Nous allons laisser la place à l'équipe de louange qui est guidée par Joël pour nous apporter un temps de chant.
Alors je vais vous lire un texte du psaume 96, versets 1 à 4. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel sur toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations de sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux.
Now Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu.
Reconnaissons ta sainteté. Nous acclamons, nous bénissons ton nom, car tu es digne de louange. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes peut-être pas réunis, mais reçois l'adoration d'un peuple qui te loue, reçois l'adoration d'un peuple qui élève ton nom. Seigneur, nous voulons être consacrés à toi, nous nous donnons à toi. Gloire à toi, Jésus.
Je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi
devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Oh oui, Père. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. chantons Père encore. Ce matin, nous sommes heureux de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs, dans nos maisons, parmi nous. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu règnes. Tu es le roi de gloire. Tu es le lion et tu es l'agneau.
Devant le lion et l'agneau, tout
arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu?
On remercie toute l'équipe de Louanges pour ces temps vraiment bénis qui nous ont permis d'ouvrir notre cœur à entendre la parole du Seigneur. Et je ne sais pas vous, mais à un moment, je me suis imaginée, je fermais les yeux et je m'imaginais entourée de tous mes frères et sœurs, de toute ma famille, que ce soit ma famille charnelle, mais aussi ma famille adoptive. Alors on va passer à un temps d'annonce et nous vous rappelons que nous sommes joignables sur le numéro de portable qui va s'afficher. Donc si vous voulez nous envoyer un petit message, si vous souhaitez aussi avoir un rendez-vous téléphonique, on peut faire aussi des rendez-vous par visioconférence. Surtout, n'hésitez pas. Alors si vous préférez nous laisser un mail, vous pouvez aussi sur l'adresse qui va s'afficher aussi. Surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur la page de l'EPI, donc sur le site de l'EPI, et sur la page d'accueil, vous verrez, il y a une photo qui s'affiche, puis après il y a les onglets qui vous expliquent tous les dons que vous, si vous désirez faire, et puis il y a toutes les informations concernant l'Église. Alors, comme vous le savez, pour le moment, on ne peut pas se rassembler. Nous n'avons pas encore de nouvelles informations. Nous attendons bien sûr les instructions du CNEF qui nous communiqueront dès que possible quand est-ce que nous pourrons réintégrer les locaux et dans quelles conditions aussi. Par contre, nous vous proposons de nous retrouver pour un temps de jeûne et prière via Zoom. Donc, les 2, 3, 4 et 5 juin de 19h à 20h15, je répète, les 2, 3, 4 et 5 juin de 19h à 20h15, nous ferons un temps de jeûne et prière en visioconférence et nous vous communiquerons par la suite, bien sûr, le lien pour que vous puissiez nous rejoindre. Donc ce matin, c'est Raymond Pierre qui va nous apporter le message de la parole de Dieu et avant cela, nous allons prier, bien sûr. Seigneur, nous te remercions pour ces chants, nous te remercions, Père, parce que c'est vrai que ça a permis de préparer nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, le message que tu as à nous communiquer au travers de Raymond Pierre ce matin. Et nous te prions vraiment de le remplir encore, de le guider, et que, Seigneur, ce qu'il va dire soit tes mots à toi, Père. Et merci pour ces instants, mon Dieu. Amen.
Mais on peut souvent comparer notre vie à un match de boxe. Certaines saisons de nos vies, on peut avoir l'impression d'encaisser, de prendre des uppercuts, de prendre des coups de poing fatals, et finalement on a l'impression que le chaos ne semble pas très loin. Et la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et si on regarde au parcours de Jésus, lui-même a subi des pressions, lui-même a subi de l'opposition et même de la persécution alors qu'il était venu emmener la bénédiction. On peut parfois subir de l'acharnement contre nous alors que nous n'avons rien fait de mal, alors que nous n'avons rien demandé à personne. Cela peut arriver sur notre lieu de travail, ça peut arriver au sein de nos foyers, parfois même dans l'église. Et ça peut nous donner le goût de tout lâcher et de se dire « mais à quoi bon continuer ?» Tous, on peut traverser des temps et des saisons de désert. Mais on va voir ce matin comment Jésus a utilisé les ressources mises à sa disposition pour non seulement traverser les temps d'opposition, mais aussi les surmonter. Alors bien sûr, quand on parle de désert, on pense à ce passage de Jésus et de la tentation dans le désert. C'est le texte qu'on va regarder dans Luc au chapitre 4 ce matin qui nous parle de cette épreuve que Jésus a subie dans le désert. C'est dans ce lieu qu'il va subir une pression pour fuir son appel et sa mission. Le premier point ce matin que je veux soulever avec vous, c'est que les saisons de désert font partie d'une vie remplie et dirigée par l'Esprit. Les saisons de désert font partie d'une vie remplie et dirigée par l'Esprit. On commence la lecture, chapitre 4, verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. » Ça commence fort. Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste pour accomplir la volonté de son Père. Lors de son baptême, on voit que l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'une colombe. Alors imaginez juste 5 minutes le spectacle grandiose que les gens voient, tout ce que les gens ont pu assister à ce moment-là. Le ciel valide Jésus devant tous. Une voix se fait entendre « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». C'est un moment de ciel sur la terre, un moment où le ciel rencontre la terre. Et qu'est-ce qu'on aime vivre en tant que chrétien, ces moments où l'on vit des expériences fortes avec Dieu, où sa présence elle est quasi palpable. Pourtant, on voit que ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Si les temps de visitation sont nécessaires et marquent aussi l'approbation de Dieu qui voit notre soif de lui, notre recherche de lui, ces temps ne sont pas une fin en soi. Certains courent après ce type d'événement et résument finalement la vie chrétienne à cela. Mais vous savez, lorsque Dieu nous remplit, c'est pour un but précis. Jésus a été rempli du Saint-Esprit avant d'être conduit par ce même Esprit au désert. Il a reçu les forces surnaturelles nécessaires et dont il avait besoin pour l'accomplissement de son œuvre en tant que Messie, en tant que Sauveur. L'Esprit et sa vie en nous ne nous sont pas donnés pour être comme une médaille qu'on accroche fièrement sur notre veste ou sur notre pull pour montrer combien nous sommes un bon chrétien, mais l'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu au contrôle de nos vies. C'est Dieu qui nous communique ses forces, c'est Dieu qui dirige nos vies et qui donne à cette dernière la direction que nos vies doivent prendre. Ce verset nous indique également que Dieu peut nous conduire dans des temps de désert et de difficultés. Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire une vie sans difficultés, une vie de prospérité ou encore une vie en bonne santé. Mais ça nous parle d'une vie de qualité, une vie où Dieu est la priorité, une vie où malgré l'infirmité et les difficultés, nous sommes comblés. Qu'est-ce que quelqu'un peut derrière son écran dire amen ? Alors, ce n'est pas le genre de phrase qu'on aime entendre. On n'aime pas entendre ces choses. On n'aime pas entendre qu'on peut être bousculé dans nos vies chrétiennes. On n'aime pas entendre parler de difficultés. Et voilà pourquoi il arrive à certains de ne pas vouloir trop chercher à demander au Saint-Esprit de diriger leur vie. Alors on peut prier comme ça, on peut dire « Seigneur, je te prie de me bénir, Seigneur, je te prie que tout se passe bien pour ma vie. » Mais on n'aime pas aller demander à Dieu de nous rediriger, parce que nous avons peur de perdre le contrôle. Francis Chan, dans le livre sur le Saint-Esprit qui s'appelle « Dieu oublié », a dit la chose suivante, « La vérité, c'est que l'Esprit du Dieu vivant vous demandera à coup sûr d'aller quelque part ou de faire quelque chose que vous ne voudriez pas ou ne choisiriez pas naturellement. L'Esprit vous conduira sur le chemin de la croix, tout comme il a conduit Jésus à la croix. Et ce n'est certainement pas l'endroit le plus sûr, le plus agréable ou le plus confortable. Si le désert n'est pas confortable, il est nécessaire. C'est là que le Saint-Esprit nous façonne pour que nous devenions la personne que nous sommes censés être. C'est un processus douloureux car c'est là que nous sommes dépouillés de notre orgueil, dépouillés de notre égocentrisme, de notre autosuffisance ou même de nos peurs. Et c'est là que nous apprenons l'obéissance et la dépendance envers Dieu. Jésus allait débuter son ministère public et le désert, ce lieu aride et inhabité, était propice pour lui au recueillement et à la méditation, pour passer du temps avec Dieu. Le temps désertique que nous venons de traverser avec ce confinement et que nous continuons quelque part de vivre est propice pour chacun d'entre nous, pour nous poser, pour méditer, pour réfléchir et pour nous tenir dans la présence de Dieu. Et on a un avantage sur Jésus par rapport au désert, c'est que lui, il était seul avec l'Esprit dans le désert. Nous, malgré le fait que nous soyons séparés physiquement, nous pouvons nous connecter, nous pouvons nous encourager, nous pouvons prier les uns pour les autres avec le téléphone, avec tous les médias qui existent par Internet pour pouvoir communiquer, pour pouvoir nous encourager. Nous avons la grâce de pouvoir traverser cette saison compliquée en étant ensemble. Le fait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit m'a toujours fasciné. On sait que Jésus était pleinement Dieu et il a choisi de se soumettre à la volonté de Dieu le Père et de se limiter volontairement dans l'exercice de ses attributs divins. Il aurait pu détruire ses ennemis d'une parole, il aurait pu descendre de la croix s'il voulait, mais il a choisi l'humilité et la soumission. Il a choisi de dépendre des forces et de la conduite de l'Esprit pour sa vie terrestre. Et ça nous enseigne une chose. Nous ne devons pas vouloir utiliser le Saint-Esprit comme une force à notre service, comme on pourrait le voir dans Star Wars. L'Esprit de Dieu n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne, il est le Dieu vivant. La Bible dit qu'il est le conseiller. C'est à nous de nous soumettre à lui et à sa volonté et de le laisser diriger nos pas. C'est nous qui avons besoin de conseils. Bien souvent, on essaye de donner des conseils à Dieu de comment nous bénir et de comment nous conduire. Sauf que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit le conseiller. Et c'est nous qui avons besoin d'être à son conseil, de nous laisser diriger par lui. Mes amis, ne fuyons pas la vie que Dieu nous propose, mais saisissons-nous de ce qui est devant nous. Notre Dieu est bon, il est au contrôle et il dirige toutes choses. Deuxième point ce matin que je voudrais soulever avec vous, le désert est à la fois un lieu de tentation et un lieu d'épreuve. Luc 4, verset 2, on continue la lecture. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc on parle du désert. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand cette période fut passée, il eut faim. Ce passage nous explique que Jésus a été conduit au désert pour y être tenté. Le terme grec ici, c'est peirazo, qui nous parle d'être tenté et éprouvé. On remarque que c'est le diable qui opère derrière l'épreuve, mais que c'est Dieu qui y a conduit Jésus. Un seul mot grec qui dépeint à la fois l'œuvre de Dieu et celle de Satan. Dieu met à l'épreuve pour fortifier la foi, pour encourager à l'endurance, pour que nous dépendions de lui, alors que le diable, dans le même temps, cherche à tenter pour provoquer notre chute, pour provoquer la chute de la personne. RT France dira, l'intention de Satan était sans doute de conduire Jésus à faire le mal, mais l'initiative était de Dieu. Et l'objet de tout le récit est de mettre à l'épreuve la réaction de Jésus à sa vocation messianique de fils de Dieu. Il s'agit d'examiner, d'éprouver la solidité de la relation récemment révélée avec Dieu. Nous devons toujours garder à l'esprit, lorsque nous vivons des temps d'opposition, lorsque nous subissons peut-être des méchancetés gratuites, garder ça à l'esprit. Que c'est à la fois une épreuve est une tentation. L'ennemi cherche à nous détruire, mais Dieu utilise cela pour que du mal puisse en jaillir le bien. Vous savez, le problème dans nos vies, ce n'est pas les circonstances qui s'abattent sur nous, mais c'est comment nous allons les gérer. Je vais vous raconter une petite histoire. On était, il y a plus de 15 ans en arrière, peut-être même 20 ans, chez des amis de la famille. Et ils habitaient à la campagne. Et puis, un moment, le chat rentre dans la maison tout fier avec une petite souris dans la bouche. Et le chat dépose la souris dans la pièce. Et là, la mère de mon pote, d'un coup, hurle. Elle monte sur la table et elle était pétrifiée. On a tous vécu la même circonstance, une souris dans la maison. Mais on a tous réagi différemment à cette situation qui était en train de s'abattre sur nous. C'est juste pour illustrer qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à nous lorsque la chose arrive. Le problème, ce n'est pas la chose ou la circonstance qui s'abat sur nous, mais c'est comment nous allons la gérer, comment nous allons fonctionner avec elle. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir complètement différemment. L'une va réussir l'épreuve, l'autre va tomber dans la tentation. Paul nous rappellera dans la lettre aux Éphésiens 6, verset 12, que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous savez, quand il y a une situation de conflit, quand il y a quelque chose qui vient nous frapper, Satan, lui, se fiche de savoir qui a tort ou qui a raison dans une situation, pourvu qu'il y ait la division. Alors que Dieu désire toujours au sein d'une zone de conflit qu'il y ait la réconciliation. Il y a toujours ces options qui sont là devant nous. Troisième point, pour pouvoir justement traverser l'épreuve en tant qu'épreuve, c'est que l'épée de l'esprit, est l'arme pour triompher du désert. Une des armes que Jésus va utiliser pour repousser les assauts de l'adversaire, c'est la parole de Dieu. Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, toujours au verset 17, que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Nous allons regarder étape après étape comment Satan va chercher de tenter Jésus, mais comment Jésus va y répondre. La première tentation, c'est la satisfaction des besoins physiques. On voit qu'après 40 jours de jeûne, où Jésus passa du temps dans la présence de son Père, il commence à ressentir la faim. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin d'attendre 40 jours pour avoir faim. Généralement, une matinée passe et la faim commence à se manifester, mais c'est un autre problème, on en parlera plus tard. La faim que Jésus manifeste dans cette situation, elle est légitime. Étant pleinement homme, Jésus ressentait les limitations de la vie humaine et il était vulnérable. Et c'est à ce moment-là que Satan choisit cette période pour venir l'éprouver. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. La technique de Satan était que Jésus réponde à son besoin légitime en agissant de manière indépendante à son Père. Vous savez, Satan ne sait pas tout, mais il n'est pas aveugle. Et il a vu la vulnérabilité de Jésus à ce moment-là face à la tentation physique de subvenir à son besoin de manger, de se nourrir. Et il a observé Jésus se priver de nourriture pendant 40 jours. Et vous savez, nous aussi, Satan nous voit. Neil Anderson écrira à propos de Satan dans son livre Le Libérateur qu'il vous observe, vous aussi, et cherche des points faibles dans vos appétits physiques en matière de nourriture, de repos, de confort et de sexualité. C'est pourquoi la tentation est plus forte lorsque la faim, la fatigue et la solitude sont aiguës. Vous savez, avec le confinement, les statistiques de connexion, de consultation à du contenu pornographique ont explosé. La solitude, l'isolement et l'ennui sont propices à ce genre de choses. Au Canada, au Québec en tout cas, il y a une augmentation de 20% 10 jours après le confinement. C'est-à-dire qu'à partir de 10 jours qui se sont passés, la pornographie, la consultation a augmenté de plus de 20%. Alors au départ, ça a baissé parce que dans les 10 premiers jours, les gens pensaient que c'était la fin du monde, que c'était fini, tout le monde avait peur, donc 65% de chute. Mais après 10 jours, le train-train qui s'est installé, la solitude et 20% par rapport à la consommation habituelle, il y a eu 20% d'augmentation. Vous savez, la sexualité que Dieu a créée comme quelque chose de bon dans le cadre du mariage est détournée par Satan. Et de la même manière que ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus transforme une pierre en pain pour achever son jeûne, Dieu ne désire pas non plus qu'on comble notre besoin de sexualité en dehors du cadre qu'il a précisé. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est nocif pour nous. Satan va toujours proposer des raccourcis qui vont déboucher sur des impasses. Le péché ne comble jamais le besoin et laisse un sentiment toujours de vide et conduit à l'esclavage. Parce qu'il n'est juste qu'une déformation des bonnes choses de Dieu. Et regardons la réponse de Jésus au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Satan essaie de faire croire à Jésus que satisfaire ses besoins physiques est la priorité. Jésus lui répond que la priorité, c'est de rechercher une relation de dépendance à Dieu et rechercher les ressources que Dieu veut nous communiquer. Satan essaie de mettre nos désirs et nos besoins avant le plan de Dieu. Jésus répond que notre première préoccupation, c'est Dieu lui-même. Jésus n'était pas prêt à faire un acte d'indépendance à Dieu pour satisfaire un besoin physique. Alors, Satan va venir sur un autre terrain. Il va chercher à utiliser l'orgueil de la domination et du pouvoir. Luc 4, 5 à 7, le diable emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ici, Satan cherche à proposer à Jésus la puissance, la gloire et le règne en échange de l'adoration. Il lui propose de lui céder son règne, mais sans la croix et sans la souffrance de l'obéissance. Des solutions qui auraient pu être alléchantes et qui facilitaient la tâche de Jésus. Je règne, j'ai pas besoin de souffrir. On voit, Neil Anderson le dira, Jésus ne contesta pas à Satan le droit de lui offrir tous les royaumes du monde et leur gloire. Étant le Dieu de ce monde, il pouvait en disposer à son gré puisque Adam et Ève se les étaient vus confisqués. En fait, Satan proposait le résultat sans le processus pour l'atteindre. Et non, mes amis, la fin ne justifie pas les moyens. Le plan d'amour du Père était que Christ vienne sur terre, qu'il donne sa vie et qu'il ressuscite pour sauver l'humanité du péché et qu'il terrasse l'ennemi. Et cela passait par le sacrifice de Jésus à la croix. On sait par l'Écriture que Christ, en donnant sa vie, a triomphé des autorités, il les a dépouillées de sa puissance. Mais s'il n'était pas venu à la croix, Satan avait toujours cette emprise. Il pouvait toujours dominer sur les gens. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, Jésus son Fils, et tout cela par amour pour chacun d'entre nous. Et là encore, cette ruse de Satan, c'est aussi ce qu'il fait avec nous. Il nous propose de régner et de dominer sur nos vies, de pouvoir mener nos vies sans consulter Dieu. Alors quand on fait ça, on a l'impression de régner, on dit « ben oui, je suis au contrôle de ma vie, c'est moi qui décide ». Mais en fait, c'est Satan qui est en train de régner à ce moment-là sur nos vies. Vous savez, il a toujours cherché à usurper la place de Dieu. Lorsque l'orgueil nous domine, lorsque la soif de pouvoir est là, ce n'est pas Dieu que nous sommes en train de servir. Ce n'est pas Dieu que nous sommes en train d'adorer. C'est Satan que nous adorons. C'est Satan que nous servons. Et c'est ce que lui désire plus que tout. La réponse que Jésus va donner est sans équivoque. Au verset 8, il dira « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus de nouveau explique que sa mission passe par l'allégeance et la soumission à son Père. Il ne voulait pas compromettre sa relation avec Dieu. En Marc 8, 36, Jésus posera la question « À quoi sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme ?» Vous savez, on peut essayer de satisfaire nos désirs de pouvoir, tout faire pour y parvenir. Mais mes amis, si Dieu n'est pas dans la partie, on va passer à côté de ce que Dieu veut et on va risquer de compromettre notre relation avec Dieu. On va peut-être même délaisser la vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui le suivent. Alors Satan va utiliser un autre stratagème. Il va proposer à Jésus d'impressionner les regards des spectateurs. Il va proposer à Jésus d'en mettre plein la vue aux gens. On voit ça dans le verset 9 à 11. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ici, on voit l'utilisation littéraliste par Satan d'un passage du psaume 91. Il essaie de pousser Jésus à utiliser l'écriture pour faire un show. Il lui dit « Vas-y, montre-nous ta puissance, l'écriture est avec toi, Dieu est avec toi, les anges sont avec toi. » Vous savez, le but du psaume 91 est de démontrer la protection de Dieu pour ses enfants, et non de les inciter à utiliser la puissance divine pour satisfaire leur soif de sensations ou de désirs déraisonnables. Et ça nous mène à un point très actuel en ce moment. Avec la crise du Covid-19, beaucoup ont utilisé quelques versets de ce même psaume, de ce même passage, pour soutenir que les chrétiens ne pouvaient pas être atteints par la maladie ou que les chrétiens ne pouvaient pas être terrassés par le fléau que nous traversons. Vous savez, on ne peut pas proclamer des versets hors contexte comme une formule magique anti-problème. Il y a des gens qui disent, et ils vont répéter et ressasser certains versets comme un mantra pour essayer de forcer la main de Dieu. Vous savez, ce n'est pas de proclamer ou de répéter un verset plusieurs fois qui va faire que Dieu va agir, comme Aladdin qui serait en train de frotter la lampe pour faire sortir le génie et lui dire ses trois désirs, ses trois vœux. Ce psaume est une invitation à croire que Dieu veille sur ses enfants et de lui faire confiance quant à la conduite de nos vies. Il ne faut pas utiliser un texte hors contexte pour en faire un prétexte. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est d'agir en conséquence d'une parole ou d'une direction de Dieu. D'ailleurs, on voit dans ce passage que Satan a omis la partie qui dit « ordre de ses anges à te garder dans toutes tes voies ». C'est-à-dire les voies qui suivent les voies que Dieu leur a tracées, pas celles que Satan a tracées pour Jésus. Et Jésus lui répondra, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. On ne joue pas avec Dieu et avec sa parole. On ne peut pas utiliser la parole pour que Dieu soit à notre service. Mais c'est la parole qui nous invite à être au service de Dieu. Vous savez, lorsqu'on cherche à mettre la parole de Dieu à notre service, nous sommes en train de propager les mêmes mensonges que Satan. Cela peut créer, susciter de faux espoirs chez les gens et détruire même la confiance que les gens ont en Dieu lorsque les choses ne se sont pas produites comme il les avait annoncées. Car ce n'est pas ce que Dieu avait promis. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi. Ces trois exemples nous montrent comment Jésus a utilisé l'Écriture et sa vérité pour exposer et confronter les mensonges de Satan qui cherchait à le détourner de son Père. Neil Anderson dira encore la chose suivante, « Le combat contre Satan n'est pas une lutte pour la puissance, c'est une lutte pour la vérité. Quand nous dévoilons le mensonge de Satan avec la vérité de Dieu, sa puissance est brisée. » Si vous vous blottissez dans la parole de Dieu, que vous la saisissez pour votre vie, l'ennemi ne peut pas avoir d'emprise. La seule emprise qu'il peut avoir, c'est le terrain qu'on veut bien lui céder. Blottissons-nous dans la parole, frères et sœurs. Protégeons-nous en saisissant, en plaçant notre confiance dans ce qu'elle dit et en disant, Seigneur, je sais que tu conduis ma vie, je sais que tu la diriges et je veux aller là où tu veux que je sois. Je veux être là où tu es. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux être là où tu es. Dernier point ce matin, c'est que Dieu désire nous remplir de son esprit. Jésus dira dans Jean que le rôle du Saint-Esprit est de nous rappeler les paroles afin de tenir ferme en s'ancrant en elles. Jean 14, 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler ce que la parole nous dit. Lorsque l'épreuve s'abat et nous frappe. Voilà pourquoi il est important de connecter régulièrement avec Dieu au travers de la méditation de sa parole, au travers de temps de prière. Parce que c'est là que Dieu nous équipe pour traverser les assauts de l'ennemi. Notre texte nous dit qu'après cela, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ce petit verset nous montre simplement que l'ennemi va toujours chercher à nous tenter pour nous faire chuter. Il cherchera les temps et les circonstances opportunes pour nous faire tomber. Mais en cultivant notre connexion avec Dieu et sa parole, nous sommes équipés pour résister et sortir vainqueurs de ces situations. Et au sein de ces temps que, où nous nous appuyons sur Dieu, cette situation où nous nous appuyons sur Dieu, son esprit et sa parole, au sein des épreuves, contribuent à nous faire grandir et à le faire grandir en nous. Laissez plus de place à Jésus dans nos vies. Regardez ce que dit notre dernier verset, au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Cette épreuve a permis à Jésus d'être renouvelé, d'être fortifié par la puissance de l'Esprit. Vous savez, si Jésus était constamment rempli de l'Esprit de Dieu et a triomphé de l'épreuve, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Vous savez, si on veut résister aux pressions extérieures, nous avons besoin d'être remplis à l'intérieur. L'ennemi va venir chercher, comme un étau, à s'appuyer contre nous. Mais si nous sommes remplis de l'intérieur, alors rien ne peut nous renverser. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. On arrive à la conclusion. Et on peut se poser la question, mais que faire si je me suis laissé piéger par la tentation? Il y a une bonne nouvelle, mes amis. Jésus a remporté la victoire au désert pour chacun d'entre nous. Là où le peuple hébreu a échoué à la sortie de l'Égypte face à l'épreuve du désert, il a échoué dans sa confiance en Dieu. S'attendre à lui pour les réponses à ses besoins et pour lui donner la victoire, Christ, lui, a remporté la victoire du désert. Aussitôt après le désert, nous voyons que Jésus révèle dans la synagogue le pourquoi de sa venue. Versets 18 et 19, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus a remporté les tentations successives de Satan, qui cherchait à le détourner de sa mission principale. Mais Jésus a vaincu. Il a été au bout pour chacun d'entre nous. Jésus a payé le prix de nos échecs. Sa grâce nous révèle, nous relève de nos échecs, pardon, à chaque fois qu'on vient et qu'on revient vers lui de tout notre cœur. Je crois qu'il est possible ce matin de se relever après la chute, mais il est également possible aussi de sortir victorieux du désert. Christ nous partage sa victoire et nous communique ses forces et sa puissance par sa vie en nous. Cherchons Dieu, mes amis, cherchons à être remplis du Saint-Esprit alors que la musique va commencer à jouer. Je crois que sa grâce veut non seulement nous pardonner, mais sa grâce veut aussi nous transformer, elle veut nous équiper pour triompher. Mes amis, ce matin, tout est à notre disposition. Dieu est présent. Dieu est là où que tu sois ce matin. Dieu est à tes côtés. Que sa vie puisse encore nous remplir. Là, devant vos écrans, alors que nous allons chanter, nous allons inviter l'Esprit de Dieu à venir. À venir peut-être nous remplir tout à nouveau. Peut-être pour quelqu'un ce matin qui est prisonnier dans le désert de ses pensées. À sortir du désespoir, à se saisir de la vérité de la parole, à rejeter les paroles mensongères et accusatrices de l'ennemi. Tu peux être libre ce matin, car Jésus t'a ouvert la voie. Jésus a remporté le désert et il a mis tout l'équipement à ta disposition ce matin pour que tu puisses traverser tes saisons de désert, pour que tu puisses traverser peut-être ce désert dans lequel tu es. Peut-être plusieurs personnes qui sont liées ce matin par toutes sortes d'addictions qui les renversent. Tout est à ta disposition. Je voudrais vous inviter peut-être à vous mettre debout là où vous êtes chez vous, pour ceux qui le peuvent. Peut-être lever les bras. C'est juste un cœur à cœur entre vous et Dieu ce matin. Et l'inviter à venir vous remplir. Je crois que Dieu veut déverser encore son esprit ce matin. Il veut nous remplir tout à nouveau. Seigneur, je te prie de souffler ce matin. Je te prie d'encourager et de fortifier. Merci Jésus de ce que nous ne sommes pas seuls. Tu nous as tout donné, tu as tout mis à notre disposition pour pouvoir nous accrocher à toi. Merci parce que ta grâce se renouvelle chaque matin pour tes enfants. Ce matin, nous voulons encore en prendre ce pas, Jésus, de venir boire à tes eaux, de venir nous remplir de ce qui coule de ton cœur. Parce que tu veux encore remplir ce matin. Tu veux encore toucher ce matin. Oh Seigneur, souffle, souffle sur nos vies, Père. Tu n'es pas un Dieu lointain et distant, mais tu es un Dieu qui te fait proche de ceux qui te cherchent. La parole déclare que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ce matin, avec l'épi, tous ensemble, nous voulons être ce peuple qui dit « Jésus, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, viens nous conduire. Tu vois nos déserts, tu vois nos combats, tu vois nos luttes, Père. Merci pour ta vie qui se déverse encore. Merci parce que tu veux encore équiper ton Église de tes dons. Oui, Seigneur, tu n'as pas fini de parler. Oui, Seigneur, tu n'as pas fini d'agir. » Et tu as choisi les choses folles que nous sommes pour confondre les sages. Et nous croyons que tu veux encore remplir, que tu veux encore équiper ton peuple ce matin. Oh Jésus, viens nous utiliser. Viens nous utiliser alors que parfois nous allons peut-être nous laisser conduire par toi pour appeler quelqu'un que tu as mis sur nos cœurs, pour communiquer quelques paroles d'encouragement, pour être présent. Oh Seigneur, manifeste-toi ce matin, nous t'en prions. Viens remplir alors que nous chantons et nous t'invitons à dire Esprit de Dieu, viens nous remplir et nous conduire. Soyez bénis, à bientôt.
Brûler nos cœurs
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Quatre vents et descend sur nous.
Amen. C'est vraiment des temps que on aime bien partager ensemble et où on aurait envie de encore et encore. Et encore. Alors, merci Raymond Pierre pour ce message. Merci à l'équipe de louanges, à Joël. Merci aussi aux personnes qui sont derrière dans l'ombre que vous ne voyez pas et qui ont permis qu'on ait ce live avec vous, qu'on soit connectés. Amen. Alors, on s'excuse, il y a eu un petit défaut, c'est que le numéro de téléphone n'est pas apparu et l'adresse mail non plus, donc on va le faire apparaître là maintenant pour vous. Vous avez le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre, nous envoyer des messages, et vous avez l'adresse mail aussi où vous pouvez nous envoyer des mails et nous faire vos demandes que vous désirez. Voilà. Notre temps se termine et nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu nous a permis de vivre. Nous restons vraiment connectés de cœur et de pensée avec vous. Toute l'équipe pastorale pense à vous. Jour après jour, on prie pour vous. On ne lâche rien. On est ensemble et unis. Et avant de se quitter, on va remercier Dieu pour ces temps bénis. Mon Dieu, vraiment encore merci. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin encore. Ouais, de pouvoir avoir un temps, Seigneur, de cœur à cœur avec toi, de pouvoir encore avoir entendu ta parole. Et Seigneur, ce n'est pas des mots qu'on veut prendre à la légère, mais on veut que ce qui a été semé dans nos cœurs puisse germer, grandir, Père. C'est vrai, on lit ta parole de jour en jour, mais on ne veut pas que la lire intellectuellement, mais aussi la vivre, Père, jour après jour, la mettre en pratique. Merci pour tout, que ton nom soit béni. Nous te prions encore pour les personnes qui souffrent dans leur corps, pour peut-être encore des personnes qui souffrent psychologiquement, Seigneur, et vraiment te demandons de les entourer, de les bénir. Père, que vraiment il y ait des victoires encore prises en ce jour et durant les jours à venir. Merci, mon Dieu, de t'intéresser à nous. Merci pour ton amour. Merci, Père. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Et prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir. Thank you.